ça compte avec Éric Auziel.
Éric Auziel, notre collaborateur de toujours. J'aime ça commencer les émissions avec toi, Éric. C'est un grand privilège de le faire. On s'en va multisport ensemble. Commençons par souhaiter bonne chance à toutes nos équipes montréalaises. Et on ajoute le Rocket là-dedans qui sera en action, pas à la maison, donc à l'extérieur du Québec, mais toujours en action également. Les Alouettes, un match crucial. Et que dire de ce match crucial également dans le football universitaire québécois?
Oui, puis au football, bonne chance à tous. Au football, on a trois équipes professionnelles au Québec. Les Alouettes, les Carabins et le Rouge et Or. Fait que là, les gens vont dire de quoi ils parlent. C'est du football universitaire. Fait que c'est de l'ironie que je fais, mais c'est un commentaire que je veux te faire, Greg, parce que c'est un peu ridicule. Et là, on se pète tous les bretelles. Moi, je paye mes billets, je vais voir les Carabins. Je vais avec mes chums qui habitent à Québec voir le Rouge et Or. J'y vais, je paye mes billets. Fait que j'encourage le football à RSEQ. Ça, c'est pas un problème. Mais on va se péter les bretelles aujourd'hui parce que les deux géants sont en finale à la Coupe Dunsmore. C'est bien. Mais c'est pas bon pour le football et la compétition parce que depuis 2000, la dernière fois qu'une autre équipe qui est allée à la Coupe Dunsmore que le Rouge et Or ou les Carabins, c'était Sherbrooke en 2012. La dernière fois qu'une autre équipe que les Carabins ou le Rouge et Or ont gagné la Coupe Dunsmore, c'était en 2002, c'est les McGill. Ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a un influx d'argent. Je te dis pas que les joueurs sont payés, c'est pas ce que je prétends. C'est que à Québec, il y a un groupe d'affaires qui donne beaucoup d'argent pour que le programme excelle. Même chose à Montréal. Pendant ce temps-là, ben c'est pas bon parce qu'il n'y a pas de compétition, c'est tout le temps les deux mêmes équipes. Alors qu'à McGill, à Sherbrooke, c'est plus difficile. À Concordia, c'est plus difficile. À McGill, on connaît la réputation. Ce sont des étudiants athlètes. Alors, on connaît les enjeux. Moi, je pense qu'on doit revenir à ce qu'on ne faisait avant les années 2000. C'est réintroduire une plus grosse conférence qu'RSEQ pour qu'il y ait plus de compétition, qu'on retrouve Ottawa, qu'on retrouve Queens. Il faut trouver une façon parce que ça commence à être un petit peu ennuyant. Si moi, je te disais, hey, les Rangers contre les Kings en finale de la Coupe Stanley, à chaque année, pendant 10 ans, tu ferais, OK, c'est le fun, mais je veux voir un petit peu de diversité. Fait que c'est mon opinion très personnelle. Bonne chance aux deux. Ça n'enlève rien au programme des deux, qui est excellent. Mais il faut trouver une solution parce que c'est pas le fun. Il n'y a pas assez de diversité quand on s'arrive à la Coupe Dunsmore.
Oui, il y a eu quelques années plus compétitives de quelques-unes des organisations, mais effectivement, là, c'est quoi? C'est la 11e fois de suite, je crois, que ces deux équipes-là...
C'est la dernière fois qu'il y a une autre équipe que Laval ou Montréal, c'est 2012. Fait que ça fait, en effet, ça fait 12 ans, tu comprends? C'est Sherbrooke qui est allé finaliste, mais ils n'ont pas gagné. Fait que d'un côté, j'encense les programmes de ces deux universités-là, c'est extraordinaire ce qu'ils font. D'un autre côté, je pense qu'on doit trouver une façon pour aider les autres équipes à être plus compétitives.
Oui, écoute, je pense que c'est sain également d'avoir de la compétition partout à travers une division. C'est certain que, bon, les fans du Rouge et Or, s'il y en a quelques-uns qui nous écoutent, on vous salue d'ailleurs ceux qui sont là-bas au tailgate à l'Université Laval qui nous écoutent via l'application parce qu'on sait que nos ondes ici à Montréal au 91.9 se rendent pas nécessairement là-bas où, c'est ça, on utilise l'application, notre site web et autres, mais les fans des Carabins également, où ça donne toute une ambiance. On a, tu sais, les deux universités qui vont chercher leurs fans, mais c'est certain que d'avoir un petit peu plus de compétition, c'est jamais mauvais, tu sais, dans n'importe quel
Exactement.
Sport.
Exactement. Puis ça donne plus d'opportunités aux athlètes qui excellent de dire, ben j'ai pas juste le choix entre Montréal et Laval, je peux peut-être aller à Concordia. Tu comprends? Fait que, tu sais, Jonathan Sénécal, ça aurait été le fun qu'il se retrouve peut-être à Sherbrooke ou à McGill. Bon, McGill, il y a un enjeu. Tu dois avoir les notes. Tu rentreras pas à McGill. Il y a un enjeu à McGill. On connaît l'enjeu. Qu'on soit d'accord ou en désaccord, c'est pas grave. Mais, tu sais, moi, c'est ce que je pense. Alors, écoute, puis tu peux te dire une chose. On est écouté à Québec. Je te le dis.
Ouais, et je tiens à saluer, vois-tu, il y a Jeff qui nous écoute, qui est un fan du Rouge et Or. Il dit salut à vous autres aussi, les gars. Alors, salut Jeff, très heureux de t'avoir. Il y a Bishop qui a changé de division, puis ça a l'air que ça fonctionne de leur côté, eux autres. Là. Ils sont rendus dans la division atlantique.
Exactement. C'est exactement. Moi, je pense qu'on doit regrouper. Tu sais, c'est petit. C'est la RSEQ, c'est petit là, au football. Là. Il y a des enjeux politiques, il y a des nuances que je ne maîtrise pas. Fait que je ne lance pas la pierre, je dis juste les administrateurs, trouvons une solution là, pour que dans les prochaines années, il y ait un petit peu plus d'équipes différentes qui aillent en finale. Puis ça va faire en sorte que ça va être encore mieux pour le football mineur au Québec.
Parlons de Shea Weber, mon cher Éric, qui a été intronisé au Temple de la Renommée. Je pense que ça a fait beaucoup de vagues, cette intronisation-là, beaucoup de vagues positives. Là, on a eu des détails sur son état de santé alors que le Canadien est en finale de la Coupe Stanley. Écoute, quel guerrier Shea Weber.
Ouais, Shea Weber, pour moi, puis là, qu'on aime son style, qu'on pense que la transaction était mieux pour Nashville ou pour Montréal, j'embarque pas là-dedans, c'est pas ce que je veux parler. Shea Weber, pour moi, était l'exemple parfait du modèle de ce qu'un athlète devrait être. Selon mes valeurs à moi, là, je ne dis pas que c'est une science infuse. C'est des Shea Weber, c'est des Tim Duncan, des gars, quand ils sont athlètes, quand ils sont actifs, quand on leur pose des questions, répondent. Quand ils prennent leur retraite, le jour qu'ils prennent leur retraite, s'effacent. Parce qu'ils ont compris que les acteurs et les athlètes qui sont en action, c'est eux autres les vedettes. C'est pas quand t'as pris ta retraite. Fait que ça, là, ça prend beaucoup d'humilité, ça prend beaucoup de dignité. Fait que Weber, là, on l'entend parce qu'il est dans l'entourage de toute la célébration du Temple de la Renommée. Mais sinon, là, on lui a reproché comment ça se fait qu'il vient pas à Montréal, il est capitaine encore, pourquoi que Weber, il se parle pas. Hey, lui, c'est le type d'athlète. Moi, là, je vais parler quand je suis sur la surface de jeu. C'est comme ça que je m'exprime à travers mon côté athlétique. Et pour moi, c'est ça. Puis je te dis pas qu'il y a des athlètes qui vont représenter des causes sociales, qui vont continuer à être très présentes dans l'opinion publique ou qui vont devenir des personnalités des médias. Moi, je te parle, ce que j'aime dans un athlète, c'est pendant que ta carrière est dure, là, sois là, exprime-toi avec ton jeu, puis après ça, là, c'est la place des plus jeunes, c'est à eux autres à s'exprimer.
Ouais, écoute, chez Weber, on en parlait ensemble dans les dernières semaines, d'avoir un vétéran comme lui là, dans l'organisation. Quand on a fait l'échange, et je le dis encore, j'aurais adoré avoir Weber et Subban ensemble avec le Canadien. Mais ouais, quand il est arrivé, le style de leadership qu'il a montré, lorsqu'il faisait des push-ups dans une pratique quand il manquait un lancer ou autre, ça a changé tellement l'éthique de travail avec le Canadien. Ça a transformé le vestiaire. Et là, on a eu une anecdote durant les séries éliminatoires en 2021. Je ne sais pas si tu as lu celle-là. Chez Weber, arrive au banc puis il disait aux attaquants, « Hey, les gars, on attaque, ça va? Voulez-vous de l'eau? » c'est assez comique.
En 2021, là, cette brigade défensive a été extraordinaire, ont été d'une physicalité, ont été violents par moment, et c'est ce qui leur permettait, avec le brio de Price, c'est ce qui leur a permis d'aller jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Mais ces gars-là, Chariot, Edmondson, Weber, ont été incroyables, tu comprends? Là, ils donnaient corps et âme, mais on sait maintenant, on le savait à ce moment-là, ce que ça prenait pour Weber de se mettre dans les patins puis d'embarquer sur la glace.
Ouais. Et selon toi, il y en a un certain qui jouait à Chicago, notamment Duncan Keith, qui devrait recevoir l'appel du Temple. Et
ouais,
selon toi, dans l'humble avis d'Éric Ozien, absolument pas trop loin de la vérité, tu penses que Lane Hudson devrait bâtir son style de jeu autour de Duncan Keith?
Beaucoup. Au niveau physique, là, Keith est un peu plus grand. Mais au niveau agilité, au niveau du côté explosif sur patin, la vision du jeu, ceux qui sont un peu plus jeunes, Duncan Keith, qui a gagné 3 fois le trophée Norris, qui a été très important dans les 3 Coupes Stanley des Blackhawks, c'était un arrière extraordinaire, fabuleux. C'était un gars qui pouvait transporter la rondelle à n'importe quel moment, faisait une bonne première passe, faisait rarement des revirements. En tout cas, les années importantes de sa carrière vers la fin, c'était un peu plus difficile. Il avait compris c'est quel moment prendre des risques. C'était des risques calculés. Je regarde Lane Hudson. Lane Hudson devrait modeler son jeu sur ce gars-là plus que... Puis là, je vais me faire reprocher d'accuser Matheson d'être un petit peu brouillon, mais copie pas Matheson. Matheson prend beaucoup de risques, beaucoup à la ligne bleue adverse, veut en faire trop, est agile, est explosif, est un patineur d'une beauté à regarder, c'est fantastique, a un bon maniement de rondelle, mais il prend trop de risques, il joue trop. Ça, c'est le problème du coaching staff, c'est pas le problème de Matheson. On est en train de faire la même erreur avec Hudson. On doit mieux le coacher, on doit lui dire « Hey, continue ton jeu offensif, mais regarde Duncan Keith, va voir des séquences de jeu de Keith, parce que t'as à peu près le même style au niveau explosif et des feintes, Fait que, tu sais, les ankle breaks qu'on appelle, là, que Hudson essaye de faire à la ligne bleue, il faut qu'il en fasse moins, il faut qu'il choisisse ses moments. Et ce gars-là va avoir une carrière incroyable parce qu'il a un potentiel illimité au niveau de ses agilités. C'est juste, il faut qu'il apprenne à doser. C'est ça, c'est important. Parce que Keith le fait, Keith l'a appris. Alors, c'est un bon modèle. C'est sûr qu'il va recevoir l'appel, c'est sûr que ça en va au temps de la renommée. Il a été trop dominant avec les Blackhawks. Donc, c'est ce que je souhaite à Lane Hudson. Et ça, c'est la responsabilité de Martin Saint-Louis, de Robida et de l'organisation du Canadien de bien encadrer Lane Hudson.
Parce que on a un joyau présentement, il faut absolument bien le développer.
Il va en faire beaucoup. C'est génial. Sois patient, Lane. Choisis tes moments. Lis la situation, tu comprends? Des fois, le jeu s'ouvre devant lui, il y va, je comprends. Il faut que les attaquants doivent l'aider aussi. Ils doivent se poser, placer en positionnement, en position pour recevoir la rondelle. Mais c'est ça. Donc, c'est mon souhait pour Lane Hudson parce qu'il est vraiment un très bon joueur de hockey. Là, je n'ai aucun doute qu'il va avoir une belle carrière dans la Ligue nationale.
J'en suis convaincu également, mais il va falloir qu'effectivement, certains attaquants se mettent à la vitesse de Lane Hudson. Et quand je dis à la vitesse, c'est de se préparer à recevoir ses passes ingénieuses, sa vision du jeu et tout le reste. On continuera d'en jaser. Éric, tu voulais absolument glisser un mot sur les Ravens de Baltimore. Ça, j'aime ça quand tu me parles des Ravens. Lamar Jackson, le débat autour de Lamar Jackson aux États-Unis n'arrête absolument pas. On a un gros match jeudi de sa part. Le débat autour du MVP qui fait rage. Là.
C'est ridicule, Greg. Et je ne suis pas en conflit d'intérêt. Je suis un partisan pur et dur des Steelers de Pittsburgh. Je ne veux pas voir les Ravens gagner, naturellement. Je n'ai pas en conflit d'intérêt. Par contre, le partisan, moi, admire sans borne Lamar Jackson, qui est arrivé dans cette ligue en 2018, une année après Patrick Mahomes, qui a été repêché, je pense, 32e, à la fin du premier tour. Et tout de suite, on a affirmé, il n'est pas capable de lancer un ballon, c'est un coureur. Je me porte en faux contre ça. Il est présentement, si on prend le classement de ESPN ou on prend le classement de la NFL, il est numéro un. Bon, Burroughs est peut-être au-dessus au niveau des passes obtenues, mais au niveau du rating, ce qu'on appelle, là, il est numéro un. On vient de faire un sondage auprès de tous les administrateurs, les GM et les coachs, un sondage de mi-saison qu'on fait chaque année dans l'NFL. Il est encore MVP pour la plupart et loin devant Josh Allen, qui est le deuxième. Écoute, Lamar Jackson, tu as vu le match, tu étais là jeudi, extraordinaire ce qu'il a fait. Et cette année, il a choisi de courir moins, il a travaillé l'aspect mental. Écoute, ce gars-là, là, je t'en ai parlé il y a quelques semaines, il est en mission. Il est motivé. Son idole, c'est Tom Brady. Il essaye de comprendre ce que chaque jeu, comment Brady pensait. Il a étudié des films. Je te dis, ce gars-là, là, on le sous-estime. Et j'ai eu un débat hier avec Georges et Martin qui a pas pris part au débat, mais qui était d'accord que les Chiefs ont l'emporté cette année. Pour moi, ça passe par Baltimore. Tu comprends? Dans l'américaine. Je te dis pas que les Ravens vont gagner le Super Bowl. Je sais pas ce qui va se passer avec les Lions. Et attention, Falcons qui s'en vient. Mais ce que je te dis, c'est que je pense qu'on sous-estime Lamar Jackson. Puis j'ai fait une petite recherche, Greg. C'est que à part Brady, qui est exceptionnel, qui a gagné un Super Bowl à 24 ans, puis Mahomes, qui a gagné un Super Bowl à 25-26 ans, là, la moyenne des gars, là, c'est 27, 28, 29, 30 ans. Des Peyton Manning, là, que certains disent que c'est un des 3 ou 4 plus grands carrières de l'histoire de la NFL. Son premier Super Bowl, il l'a eu à 30 ans, tu comprends? Si on exclut, là, si on reste dans le temps moderne, les gars, là, c'est vers 27, 28, 29 ans qu'ils gagnent leur premier Super Bowl. Ben, ça tombe bien, Lamar Jackson, il a 27 ans. Tu comprends? Il arrive à maturité.
Exactement. Et, tu sais, Lamar continue de s'améliorer. Je sais qu'il y a plusieurs experts, tu sais, tu disais le transformer en porteur de ballon. Il y en a qui parlaient de le transformer en receveur de passe également. Je pense qu'aujourd'hui, et j'aimerais ça des fois, là, tiens, Éric, quand tu te trompes, toi, tu le dis que tu t'es trompé?
Ah, puis je me trompe souvent.
Ben, tout le monde se trompe souvent, c'est tout à fait normal. Et moi, quand je me trompe, je le dis, j'accepte qu'on rit de moi, ça me fait tellement plaisir, ça fait partie du sport, puis ça fait partie d'être un observateur comme on l'est. Mais ceux-là, qui au début de sa carrière disaient ça, là, que je sais que là, il y en a maintenant qui le défendent beaucoup. Là, par exemple, Colin Coward, qui au départ de sa carrière le critiquait, maintenant le défend beaucoup. Stephen A. Smith également. Mais de se dire les autres là, qui se trompaient à son sujet. Pourrait peut-être prendre des notes. Puis en même temps, écoute, Eric, dans l'ère où est-ce qu'on est présentement, on ne peut pas juger la carrière d'un gars. C'est un fait indéniable, les victoires au Super Bowl. Mais présentement, on a des excellents carrières dans cette ligue-là. Et sais-tu quoi? Il y en a très peu qui ont des bagues parce que les bagues ont été remportées par un certain Tom Brady, un certain Pat Mahomes. Et sinon, ben ça a été quoi? Matthew Stafford et Joe Flacco qui a une bague encore dans cette ligue-là. Peut-être que j'en oublie un. Mais tous
Aaron
les
Rodgers.
Autres.
Aaron Rodgers.
Oui, effectivement. Aaron Rodgers qui est encore là, peut-être pour la dernière fois. Espérons-le peut-être. Lui qui a trouvé la fontaine de Jouvence. Je ne sais pas si tu as vu ça, là, mais bref, ça, c'est une autre affaire.
Ça, c'est un autre dossier. Puis, pour terminer avec les Ravens, là, statistiquement, c'est la deuxième plus puissante offensive de l'histoire de la NFL en arrière des fameux The Biggest Show on Turf, là, des Rams de Saint-Louis à cette époque-là avec Kurt Warner. Alors, écoute, c'est quand même, il y a quand même un rôle là-dedans. Et moi, j'aime beaucoup. Tu sais, on va comparer les Chiefs et les Ravens. Moi, je pense que l'avantage que les Ravens vont avoir en fin de parcours, là, c'est leur allié rapproché. Je pense qu'il a plus de football présentement que Travis Kelce va en avoir au 17e, 18e match de la saison. Là, on a perdu Hamilton en défensive, mais c'est une blessure à une cheville. D'après moi,
il va être là la semaine prochaine. Ils ont eu les meilleures nouvelles possibles. Hey, Eric, merci beaucoup, mon chum.
Hey, bonne journée à tous. Salut Olivier. Bon samedi. Puis demain, on se parle des Alouettes, du Carabin, de tout ça.
Oui, exactement. Soyez rivés à vos téléviseurs aujourd'hui pour tous ces matchs-là. Merci encore, Eric. Bon samedi. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on reprend ça demain même heure.
Parfait. Bye-bye.
Salut, mon chum. Pour ceux qui nous écoutent présentement via le 91.9 à Montréal, tant mieux. Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous avoir avec nous dans le tailgate, Olivier et moi. Ceux qui nous écoutent habituellement par notre YouTube Live, donc là, qui sont probablement sur l'application ou qui sont sur les ondes radiophoniques, on n'aura pas de diffusion sur YouTube aujourd'hui, malheureusement. Ça reviendra fort probablement demain. Ce sont les aléas de la technologie. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, t'es le marteau, des fois, t'es le clou. C'est comme ça aujourd'hui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même échanger ensemble sur notre messagerie texte au 514-790-0919. Vous pouvez répondre à la question du jour, notamment sur notre messagerie texte, histoire qu'on jase ensemble de tout ça. Combien d'équipes montréalaises vont l'emporter aujourd'hui, à votre avis? Dans nos choix de réponse, on a 0, 1, 2, 3, mais si vous pensez que le Rocket va en coller un autre victoire, vous pouvez ajouter ça dans les choix également aussi. Donc, une quatrième victoire, serait-tu pas formidable? En tout cas, on serait heureux, puis on aurait un maudit bon show de radio demain. Pour l'instant, au retour de la pause, dans 2 minutes, c'est un petit peu difficile pour le premier trio du Canadien depuis quelques matchs. Et je pense qu'à un certain moment donné, faudrait parler de Kirby Dach. Est-ce qu'on le laisse là? On le met sur le troisième, quatrième trio. Quel est votre avis? 514-790-0919 sur la messagerie texte. Et au retour, Olivier et moi, on en jase ensemble.